Je vais commencer par une petite anecdote. Il y a 3 ans, jour pour jour, j'étais au bureau de Solidaire. Jusque-là, c'est pas très passionnant. Nous étions avec ma collègue devant notre ordinateur et la FIFA était en train d'attribuer les Coupes du Monde 2018 et 2022. Alors voilà, on était dans notre ordinateur. Coupe du Monde de 2018, il y avait 5 pays européens en lice. Et puis Blatter arrive, sort son joli billet et on voit Russia. Là, on était quand même un peu surpris et décoiffé. On a quand même lâché un ou deux jurons. Et je me souviens avoir dit à ma collègue, ben ça y est, le bouquet, ce serait que la FIFA attribue la Coupe du Monde 2022 au Qatar. 1 minute 30 plus tard, Blatter, tout joyeux, très souriant, arrive avec son billet, le sort, pof, Qatar. Alors là, il y a eu 30 secondes de silence où on était quasiment en état de choc. Ensuite, il y a eu quelques jurons que la décence m'interdit de reproduire ici. Et on s'est retrouvé avec des Coupes du Monde qui ont eu lieu en 2010 en Afrique du Sud, la suivante au Brésil en 2014. Et puis ensuite, ça va continuer avec la Russie en 2018 et alors, bouquet final, le Qatar en 2022. Et ça, c'est un phénomène assez nouveau parce qu'auparavant, les Coupes du Monde de foot avaient plutôt lieu dans des pays riches, avec quand même quelques exceptions comme le Mexique et l'Argentine en 1978. Coupe du Monde qui a eu lieu, soit dit en passant, sous la dictature de Videla, avec un match très probablement truqué entre l'Argentine et le Pérou. L'Argentine devait gagner par 4 buts d'écart et a gagné 6 à 0, ce qui lui a permis d'accéder à la finale. Finale où l'Argentine, sous les yeux totalement ravis de Videla et de sa clique, a battu les Pays-Bas. Pour la petite anecdote sportive, il y avait 1-1. À 15 secondes de la fin, Rensenbrink des Pays-Bas a tiré sur le poteau. Si c'était rentré, les Pays-Bas auraient gagné. Finalement, il y a eu prolongation et l'Argentine, pour la plus grande joie de Videla, a gagné la Coupe du Monde 3-1 après prolongation. Voilà, ça c'était la toute petite parenthèse sportive à la gloire de Videla. Pour en revenir à notre sujet, on se retrouve maintenant au niveau de la Coupe du Monde, donc avec ce phénomène nouveau des Coupes du Monde qui ont lieu dans des pays très inégalitaires et qui bafouent souvent violemment les droits humains. Je répète, Afrique du Sud, Brésil, Russie et Qatar. L'Afrique du Sud, ça a été un combat difficile, une grosse mobilisation syndicale face aux géants que constitue la FIFA. À la fin, un bilan assez extraordinaire. Le bilan en définitive, c'est 3 milliards de pertes pour l'Afrique du Sud et 3 milliards de bénéfices exonérés de tout impôt pour la FIFA et ses partenaires. Voilà, je crois que c'est des chiffres qui en disent assez long. 10 stades, 3 stades qu'on appelle des éléphants blancs, c'est des stades immenses. Avec par exemple la Nelspruit, un stade de 40 000 places, ultra moderne, qui ne sert quasiment plus à rien, qui accueille des matchs voilà, quoi, de clubs locaux tout à fait anecdotiques. C'est un petit peu comme si vous aviez ici un stade ultra moderne, bon, il y a le stade de la Praille, mais disons ce serait encore un peu plus grotesque, ce serait un stade de 40 000 places ultra moderne à Carouge, qui tous les 15 jours accueillerait des rencontres aussi palpitantes que Carouge-Dougan, Carouge-Brighton-Rhein ou Carouge-Schütz. Et je vous laisse imaginer les coûts d'exploitation de ces stades. Au Cap, par exemple, il y a un stade de 70 000 places, un stade ultra moderne. Il a été question que son exploitation soit reprise par une société privée, parce que actuellement très cher à la municipalité du Cap. Et la société du Stade de France, à un moment donné, s'était intéressée à la reprise du Stade du Cap, mais a très vite renoncé, parce qu'elle a parfaitement compris que ce n'était absolument pas rentable. Enfin, il n'y a pas d'équipe de foot qui joue régulièrement devant de grosses affluences. Et c'est un stade qui coûte extrêmement cher. Et la société d'exploitation du Stade de France a très vite compris que c'était un gouffre à millions. Lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, il y a aussi eu, Ralph a eu l'occasion de l'évoquer, de nombreuses expulsions. 20 000 personnes expulsées pour faire place à des infrastructures essentiellement sportives, quoique on est dans un tel délire que je ne sais pas si on peut encore parler de sport, mais disons des infrastructures en lien avec la Coupe du Monde de foot. Il y a eu aussi des zones d'exclusion autour des stades, c'est-à-dire que dans ces zones, seuls les sponsors et partenaires de la FIFA pouvaient vendre leurs produits. C'est un phénomène qu'on retrouve au Brésil. Vous avez très probablement entendu parler de tous les débats autour de la bière, et notamment de la Budweiser. Au Brésil, en 2003, le gouvernement avait décidé d'interdire la vente d'alcool aux abords des stades et dans les stades pour des raisons de sécurité, enfin, qui me semblent assez évidentes. Ensuite, en 2011, Jérôme Grelqué, secrétaire général de la FIFA, a fait pression pour que l'interdiction de vente de l'alcool soit levée, le but étant que Budweiser, sponsor de la FIFA, puisse vendre de la bière aux abords et dans les stades. Et Valqué avait dit, grosso modo, la bière fait partie de la culture sportive et il est absolument hors de question que la FIFA y renonce. Je ne sais pas si la FIFA aura très bonne conscience si tout à coup il y a des incidents dans les stades liés à la consommation excessive d'alcool. Mais c'est typique d'un véritable néocolonialisme où la FIFA arrive et met littéralement des pays entiers sous coupe réglée avec des exigences très très élevées pour les stades. Généralement, la FIFA arrive en disant qu'elle veut toujours des stades plus modernes, plus sophistiqués et plus coûteux, et on arrive à un stade au Brésil où les stades devraient coûter au total entre 4 et 5 milliards de francs et un coût total qui sera probablement de 15 milliards de francs. Enfin, quelque chose de totalement délirant. À côté de ça, on promet bien évidemment qu'il y aura une augmentation des visites touristiques. Ça, c'est un argument qui est toujours sorti. En Afrique du Sud, il était question de près de 500 000 touristes qui viendraient en lien avec la Coupe du Monde de foot. Et finalement, ce nombre a été de 25% inférieur à ce qui était attendu, en raison notamment de prix particulièrement élevés. Et encore cet après-midi, j'ai vu un article du Soir, un journal belge, où un économiste allemand relevait que la fréquentation touristique du Brésil serait probablement largement inférieure aux attentes. Bon, vu tout ce qui se passe en matière de consommation d'alcool et de prostitution, c'était plutôt une bonne chose. Mais toujours est-il que toutes ces promesses de boom du secteur touristique ne se sont pas concrétisées en Afrique du Sud et ne vont certainement pas se concrétiser au Brésil. Et il y a toujours aussi des promesses liées au secteur de la construction. Alors effectivement, le secteur de la construction connaît un certain boom lié à la construction des stades, ça c'est tout à fait logique, mais ce sont des emplois sans lendemain, enfin une fois que les stades sont terminés, il n'y a plus de job, et l'impact économique tombe. Bon, ça dit en passant, c'est assez marrant de voir que la FIFA vient expliquer que la construction de stades est bonne pour l'économie, c'est un raisonnement très keynésien, alors même que la FIFA fonctionne dans une logique tout à fait ultra-libérale. Donc, petite parenthèse fermée. Pour en revenir au Brésil et aux expulsions, alors il faut quand même savoir que les expulsions, il y en avait eu à peu près 20 000 en Afrique du Sud. Au Brésil, on va arriver à 200 000, voire 250 000 personnes expulsées. Et des expulsions en Amérique latine, c'est brutal. Enfin, c'est la police, voire l'armée qui débarque, évidemment armée jusqu'aux dents. Il n'y a pas forcément de préavis. Les habitants, ensuite, doivent se débrouiller comme ils peuvent pour se reloger. Souvent, ils sont littéralement en état de choc. Et ça, c'est toute une face cachée de la Coupe du Monde dont on entend très peu parler en Europe et dans la plupart des pays occidentaux. Et donc, je répète, on va arriver dans les 200 000 personnes expulsées au Brésil. La bonne nouvelle étant qu'il existe une mobilisation au Brésil et qu'il y a beaucoup de comités populaires qui se défendent. Ce qu'on avait pu voir lors de la Coupe des Confédérations. La Coupe des Confédérations, c'est la petite répétition générale de la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, vous avez 32 équipes nationales. À la Coupe des Confédérations qui a eu lieu au Brésil en juin de cette année, il y en a 8. Donc ça fait office de répétition générale et c'est là où il y avait eu toute cette immense mobilisation au Brésil. Et là, il est intéressant de signaler, enfin j'en discutais jeudi avec un journaliste brésilien qui a couvert la Coupe des Confédérations et qui me disait, les deux premiers jours, il y a eu cette mobilisation populaire très forte qui a continué et Blatter a pris cela avec une arrogance sidérante. En disant « Ouais, ouais, mais les Brésiliens adorent le foot, l'amour du foot va très vite l'emporter, ça va durer 2 jours et ensuite plus personne ne va en parler. » Ça, c'est pas tout à fait passé comme ça. Et ce journaliste m'expliquait que 2 semaines plus tard, lors de la finale, donc la finale, c'était le Brésil contre l'Espagne, il y avait 5000 places réservées pour des VIP, comme on dit, hein, les Very Important People. Parmi ces personnes, beaucoup d'entrepreneurs, des membres de l'establishment brésilien. Et sur ces 5000 personnes, alors même que le Brésil jouait la finale, que le Brésil a d'ailleurs gagné, petite parenthèse footballistique fermée, alors même que le Brésil jouait, 2000 personnes parmi ces VIP ne sont pas venus, ce qui était probablement un signe de protestation contre l'attitude très arrogante de la FIFA. Et il paraît que cela a profondément choqué Blatter, ce qui explique probablement le fait que Blatter maintenant manifeste, en tout cas dans ses propos, une certaine sensibilité pour le sort des travailleurs lors d'événements sportifs et pour le sort des marchands de rue. Il a partiellement réalisé que tout ce qui se passe autour des Coupes du Monde de football, toutes ces choses que l'opinion publique commence à connaître, pourraient avoir un impact négatif sur l'image de sa FIFA adorée. Blatter a d'ailleurs même tenu quelques propos où il s'émouvait du sort des travailleurs au Qatar. On a même presque cru, on aurait même presque pu croire qu'il allait en tenir l'international. Le Qatar, ben, c'est véritablement l'enfer à nos portes. Il y aurait la Russie donc en 2018. Bon, ça ne va pas être très joyeux, parce qu'évidemment que les conditions de travail en Russie sont mauvaises, notamment pour les travailleurs migrants qui viennent d'Asie centrale, Kazakhstan, Tadjikistan, Ouzbékistan et du Caucase. Enfin, ce sera difficile. Mais alors, le Qatar, là, ce sera encore une autre paire de manches. Au Qatar, l'ambassade du Népal estimait vers fin août qu'entre le 4 juin et le 8 août 2013, donc le 4 juin et le 8 août de cette année, il y avait eu 44 travailleurs migrants népalais morts au travail et notamment sur des chantiers. Et l'International du bois et du bâtiment estime que, si rien n'est fait, 4000 ouvriers, la plupart clandestins, risquent d'être tués sur les chantiers d'ici 2022. Soit d'épuisement, soit en raison de conditions de sécurité qui sont catastrophiques. Et là, il faut préciser que le Qatar, ben, c'est un petit pays, 2 millions d'habitants, avec environ 300 000 personnes qui ont le passeport qatari. et 1,7 million de personnes étrangères, des migrants. Généralement, leur passeport est confisqué lorsqu'ils arrivent au Qatar. Ils sont traités comme de véritables esclaves, qu'il s'agisse de femmes de ménage ou des ouvriers sur les chantiers. Donc le Qatar est un véritable enfer pour les travailleurs. Et effectivement, on ne peut qu'espérer que la décision d'attribuer la Coupe du Monde au Qatar en 2022 soit finalement annulée. C'est un scénario qui n'est pas totalement impossible. Il faut quand même savoir que lors de l'attribution du Mondial 2022, le Qatar avait le plus mauvais dossier technique. Il y avait en lice une candidature commune du Japon et de la Corée du Sud, de l'Australie et des États-Unis, ainsi que du Qatar. Et le Qatar avait véritablement le plus mauvais dossier technique. Et puis, il y a actuellement, enfin, si vous suivez un tout petit peu ce qui est écrit dans les journaux, un immense débat autour du fait qu'au Qatar, normalement, à la Coupe du Monde, c'est au mois de juin. Donc, je vous laisse imaginer, au mois de juin 2022, la chaleur accablante au Qatar, qui fait du reste que dans le dossier de candidature, le Qatar prévoyait la construction de stades climatisés pour mettre les sportifs à l'abri de la chaleur. Là, les instances sportives sont en train de réaliser que quand même c'est peut-être techniquement difficile à faire et qu'en plus la chaleur risque d'être éprouvante pour les footballeurs et pour les supporters. Alors maintenant, il y a tout un débat pour savoir si la Coupe du Monde ne devrait pas avoir lieu au mois de janvier, au mois de février, peut-être au mois de novembre. Enfin, autour de la Coupe du Monde au Qatar, c'est vraiment, je m'excuse du terme, mais le bordel intégral. Et dans ce contexte, dans le contexte aussi de tous ces incidents mortels au travail, alors je répète, on pourrait imaginer jusqu'à 4000 personnes tuées sur les chantiers, il n'est pas du tout illusoire d'imaginer que finalement la Coupe du Monde 2022 n'ait pas lieu au Qatar. Alors pour résumer, je dirais qu'on se retrouve dans une problématique nouvelle de Coupe du Monde de football qui ont lieu dans des pays très inégalitaires et qui bafouent les droits humains, avec un véritable néocolonialisme de la FIFA qui impose ses exigences, une mobilisation syndicale et populaire qui permet de limiter la casse, de même joliment limiter la casse par rapport à ce qui était possible en Afrique du Sud, au Brésil. Mais bon, en Afrique du Sud et au Brésil, il y a une mobilisation populaire, il y a une certaine liberté de la presse, une certaine liberté de réunion. Mais ensuite, les défis vont devenir de plus en plus durs avec la Russie en 2018. La liberté de réunion et la liberté syndicale en Russie laisse pour le moins à désirer. Et puis ensuite, le bouquet final avec le Qatar, où là, on a simplement affaire à un régime en définitive autoritaire et esclavagiste, et où, je le répète, il y a eu entre le 4 juin et le 8 août de cette année 44 travailleurs migrants morts sur les chantiers en raison de conditions de sécurité insatisfaisantes ou simplement parce que ces personnes sont mortes d'épuisement. Donc on va aller crescendo dans l'horreur et la nécessité d'une mobilisation de l'opinion publique internationale, des syndicats et des défenseurs des droits humains sera de plus en plus sérieusement mise à contribution.